L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine quotidien de Transistor, le nouveau nom de Radio Évasion. C'est toujours en direct à midi, c'est rediffusé à 18h. Et aujourd'hui, on retrouve la Ligue des droits humains de Presqu'île de Crozon et son célèbre festival de cinéma. Il a lieu bientôt, le 8e festival des libertés et des droits humains, toujours sur fond de menaces en tout genre contre ces libertés et ces droits, même en France. Le festival, comme toujours, propose une programmation tout public et une programmation jeunesse. Les projections se répartissent entre les deux cinémas, Rocamadour à Camaret et Rex à Crozon. Comme toujours, les séances donnent lieu à des débats, des interventions. Il y aura aussi une émission en direct sur nos ondes pour l'ouverture du festival vendredi 16 février à 19h. Ce sera animé par Sancho avec Fred Montfort à la technique. Avec nous, pour en discuter, il y a Claire Duval-Olivaux et Thierry Fenoy de la Ligue des droits humains de Presqu'île de Crozon. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bon, ben, c'est très simple. Vous allez nous parler du programme de cette 8e édition, c'est ça ? C'est presque tous les ans, il y a eu quelques...
Il y a eu une interruption Covid.
Ben voilà, comme beaucoup de festivals, à dire vrai. Vous ne changez pas la formule. Globalement, ça reste la même formule.
Ben, globalement, oui. On l'a un petit peu étoffé par rapport à l'an passé, parce que c'était l'an passé un renouveau du festival, après une reprise. Et donc là, il est programmé sur une semaine, donc du 16 au... du vendredi 16 au soir, février, jusqu'au vendredi 23 qui suivra, juste avant les vacances d'hiver.
Avec 10 films, dont 6 pour tout public, mais plutôt les adultes, on va dire, et puis 4 pour le jeune public. Alors, on va les prendre dans l'ordre, hein, et on va commencer à chaque fois par, en évoquant les films, évidemment, il y a des problèmes derrière, des questions que la LDH traite malheureusement. Tantura, c'est ça le premier ?
C'est cela, oui.
Thierry, ouais, non ?
Tu l'as vu, donc...
Oui. Ah non, bah Claire, alors.
Oui, je pense que les spectateurs vont certainement être bouleversés par ce film et qui va leur donner accès à la compréhension de pas mal de choses. Ce film se passe en 1948, lorsqu'il a été décidé de fonder l'État indépendant d'Israël. Et pour ce film, nous accueillons donc un représentant de l'association France-Palestine Solidarité 29, en la personne d'Yves Jardin, qui participera également à l'émission que vous avez le plaisir, enfin, nous avons l'honneur de vous accueillir dans les salles de cinéma, celle du Rex, le soir de l'ouverture, pour une émission de Radio Évasion, spéciale ouverture, et donc Yves Jardin sera présent également pour répondre aux questions de l'émission.
Donc c'est un documentaire qui est récent, hein. Ça parle de 1948, mais c'est un documentaire
récent. Le film est récent.
Le film est récent. C'est un documentaire qui a été fait par Alan Schwartz, qui est lui-même juif, qui vit en Israël, mais qui s'est intéressé à l'histoire d'un petit village portuaire, Tantoura, dont il avait entendu qu'il y avait eu un certain nombre d'exactions commises par l'armée israélienne.
Et c'est donc, un village palestinien.
C'est un village palestinien.
Et c'est dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie ?
C'est plutôt en Cisjordanie. Il va aller fouiller, déterrer, interviewer. Il va en fait ressortir une thèse qui a été suivie par un universitaire qui, à l'époque, justement, s'est penché sur l'histoire de ce village, a interviewé des tas de personnes, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire à la fois des militaires, des Israéliens qui vivaient là-bas, mais aussi également des Palestiniens qui en étaient partis, et qui, à la suite de la sortie de cette thèse, a été très, très inquiété par l'État israélien, parce qu'il soulevait et portait atteinte à la belle histoire, à la belle fable sortie tout droit, officielle, et bien relayée par Hollywood et les États-Unis. Et alors, je vais vous lire la première phrase du film, parce que tout est dit. Hein, une nation qui ne connaît pas son passé a un présent fragile et un avenir incertain.
Donc ça, c'est un documentaire. En plus, c'est important que ce soit réalisé par un Israélien, je suppose.
Si ça n'était pas un Israélien, ça n'aurait pas du tout la même valeur.
Bien sûr.
Et il a été projeté en Israël ou...
Alors, pour tout vous dire, depuis ce qui se passe actuellement, le réalisateur a dû fuir Israël parce que lui et sa famille sont très inquiétés parce qu'il... bien sûr son film met le doigt où il ne faut pas, c'est-à-dire demande rien qu'une chose, c'est que l'État israélien reconnaisse ce qui s'est passé réellement, comme nous on a pu le faire avec l'Algérie, hein, je pense que chaque ou avec notre participation large à la déportation de juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'était l'objectif de ce réalisateur, c'est de dire on doit se regarder les yeux dans les yeux et demander pardon pour les exactions commises, parce que tout ne s'est pas fait de façon extrêmement romantique et romanesque comme on a pu le voir véhiculé dans Exodus et avec Paul Newman et Eva Marissin, n'est-ce pas, tout le monde connaît.
Les rondes des nouveaux arrivants dans les kibbutz, enfin c'est très joli, mais oui. c'est pas tout à fait
c'est
ça quoi.
Oui, bien sûr. Donc c'est Tantura, donc c'est le premier de...
Je voudrais juste dire que
aux autres films, sinon on n'aura pas le temps. Hein.
Oui, ouais. Mais il faut quand même comprendre que c'est un film d'espérance.
Ah oui.
Parce que c'est pas seulement pour le plaisir de fouiller le passé difficile, c'est aussi pour donner des clés pour avancer.
Pour comprendre, bien sûr. Mais oui, l'histoire, ça sert à ça, théoriquement.
Tout à fait. Mais ça me semblait important de préciser cette petite chose.
Et alors, En bonne compagnie, alors qui se passe pas du tout au même endroit, hein, c'est un film d'espérance ou pas?
De résistance.
On peut espérer que ce soit un film d'espérance. Mais c'est un petit peu ce dont nous parlions juste avant le début de l'émission. Ce qui est dramatique, c'est de se faire encore la guerre sur des sujets de société comme celui-là. Quoi.
Donc voilà. Là, c'est quoi ce sujet alors c'est une fiction.
Alors,
cette
c'est
fois.
Une fiction, ouais. Oui, tout à fait. Ça se passe au Pays Basque en 1977. Hein, une jeune fille va rejoindre le mouvement féministe qui traverse le pays.
Oui.
Oui. Et donc, Franco est mort en 1975. Donc, on est deux années après la mort du Generalissimo.
Alors, c'est le Pays Basque espagnol. Hein.
Et, bien sûr, oui, ça se passe préciser. En Espagne. Mmh. Il faut savoir que sur l'accès à l'avortement, en Espagne, il y a eu un certain décalage par rapport à nous.
Forcément.
Hein, une dizaine d'années. Et donc, voilà, c'est le parcours de cette jeune fille qui va rencontrer une autre, qui va l'amener vers le féminisme. En fait, c'est... La réalisatrice dit le film, ce sont en fait c'est les yeux d'une adolescente qui essaie de comprendre les conversations derrière une porte, les silences d'une mère, les pleurs d'une femme.
Et c'est aussi une question dans l'actualité française, là en l'occurrence, le droit à l'avortement, faut-il l'inscrire dans la Constitution ? Enfin, je pense que vous en discuterez avec le planning familial de Brest.
Oui, le
sera
planning familial brestois est assez inquiet de ce qui se passe en ce moment, hein, y compris sur son petit territoire, avec une multiplication des tags anti-avortement. On sait très bien que dans la région, l'extrême droite est en train de vraiment bien s'ancrer. Alors que c'était comme partout. On pensait la Bretagne à l'abri pendant des années, mais finalement, il s'implante et de façon assez sournoise et très organisée, ce qui nous inquiète fortement, nous, à la Ligue des droits de l'homme. Ligue des droits humains, pardon, parce que je tiens à défendre ce H comme humain. Et
surtout
non pas
dans
homme.
Un film féministe.
Surtout dans un film féministe.
Justement, parce que la LDH maintenant se réforme et s'appellera LDH et pas Ligue des droits de l'homme.
Mmh. Et ouais. Donc là, ça c'est le samedi 17 février, oui. Hein, il y a une seule projection, non, il y en a plusieurs ?
Il y a une seule projection avec un invité, voilà, une représentante du planning familial brestois.
Et le même jour, avant que les flammes ne s'éteignent, encore une fiction.
encore une fiction au Rex cette fois-ci, à 20h30. Alors nous aurons le plaisir de recevoir en visio Dominique Noguerès, qui est coordinatrice du groupe de travail LDH Justice Police, auquel nous adhérons également en tant que section. C'est-à-dire que la LDH fonctionne comme ça, il y a un certain nombre de groupes de travail et qui planchent plus précisément sur des domaines. Et donc le groupe Justice Police, je peux vous assurer, ne chôme pas depuis plusieurs années.
Ah bon ?
Donc il y sera question dans ce film. Alors c'est un film avec Camilla Giordana, que tous les jeunes connaissent, n'est-ce pas ? Ni plus ni moins, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va enquêter sur la mort de son petit frère, tué par les forces de l'ordre. C'est une histoire de Naël, du jeune Naël dont on a appris la mort cet été. Le hasard du calendrier a fait que le film était en cours de réalisation et était même monté quand le jeune Naël est mort. Mais c'est exactement le même style d'histoire.
Une sortie nationale alors ce film.
Oui, oui, il a pas encore été projeté.
Je suis effrayé par la multiplication de ces morts suite. Alors bien sûr les refus d'obtempérer,
c'est
pas bien.
Non, c'est pas bien.
bien.
Mais est-ce que ça vaut la mort, quoi.
Mais ça mérite pas la peine de mort. Et ces courses poursuites aussi dans les rues des villes. Parce que, là je vais dire exprès, le flic veut impérativement gagner sur le champ la bataille contre ce jeune ou ce délinquant qui prend la fuite. Moi je trouve ça hallucinant parce que c'est au péril de la vie, non seulement du jeune présumé coupable, comme on peut le penser, mais aussi des gens qui passent ou d'autres.
Oui, il y a des victimes collatérales, bien sûr.
Il peut y avoir des victimes collatérales. Oui. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas aujourd'hui laisser partir quelqu'un quitte à le retrouver le lendemain matin. Il y a d'autres pays qui se débrouillent très bien en faisant comme ça. Bon, mais là, il faut gagner. Il faut gagner. Là, maintenant, tout de suite. Sinon, je perds la face.
Et quelles sont les commissions, la commission police, justice police de la LDH, qu'est-ce qu'elle identifie comme problème concret ?
Elle observe déjà quand il y a une réforme de la justice, par exemple, qui est en cours, elle analyse, elle est mise au courant très tôt. Nous, au niveau de la LDH, on reçoit les textes très tôt, avant même qu'ils soient même parfois des
bastions.
Vous êtes quand même une
instance
experts.
Consultative.
D'accord, ok.
Et du coup, la réforme, par exemple, de la justice, qui est sortie tout récemment, a été analysée par l'LDH, qui analyse chacune des propositions et qui fait remonter un certain nombre d'observations, et notamment qui se projette sur sur une application qui pourrait être en dehors des clous en termes de liberté et droits humains.
Et qu'est-ce qu'ils ont repéré là pour la réforme de la justice, vous savez ?
Il y avait un certain nombre de choses, notamment qu'il y aurait peut-être de moins en moins de juges qui jugeraient.
Ça fait 50 ans que c'est comme ça. Et qu'on supprime les juges, on regroupe les tribunaux, mais c'est exactement le même problème que les hôpitaux. Il y a des déserts médicaux, il y a aussi les déserts judiciaires. Moi, j'ai vécu personnellement, comme avocat, la mise à mort de notre cher actuel ministre de la Culture, qui était à l'époque ministre de la Justice, Rachida Dati, qui a assassiné les tribunaux des petites villes où moi j'exerçais, les tribunaux d'instance pour les petits litiges, les petites choses.
Comme il y avait
quotidien.
À Châteaulin, par exemple.
Oui, à Châteaulin, ici. Oui. Moi, j'étais en Bourgogne à l'époque. C'était Montceau-les-Mines, Charolles, Autun, toutes ces villes. Et donc, on oblige les gens à faire 50 ou 100 kilomètres pour aller juger un problème de voisinage, quoi. Bon, voilà.
Ils ont mis des médiateurs, quand même, n'est-ce pas ? Des médiateurs de justice, des conciliateurs de justice.
Oui, mais enfin, le conciliateur de justice, c'est bien quand les gens sont d'accord pour aller le voir. Quand il faut trancher, il n'y a que le juge qui a ce pouvoir.
Donc, on en est à De l'eau jaillit le feu. Alors là, c'est un documentaire. On revient au documentaire, Claire.
On revient à un documentaire, mais qui va permettre l'occasion d'échanger et de discuter sur les violences, sur la façon dont on réprime, que ce soit dans les quartiers, avec la mort du jeune Naël et le passage à tabac d'Eddy, et la mort d'Adama Traoré, etc. Et
on est toujours au maintien de l'ordre,
de l'ordre qui nous inquiète, parce qu'avec un déploiement de forces de l'ordre qui ne sont pas d'ailleurs toujours extrêmement compétentes, parce qu'il ne faut pas oublier que sous Nicolas Sarkozy, il y a eu un écrémage, parce que si on a viré un certain nombre de fonctionnaires, il y avait aussi certaines forces de l'ordre qui ont été aussi éliminées, et notamment des gens dont c'était le métier de pratiquer du maintien de l'ordre,
sécuriser les manifestations,
etc.
Donc on a régressé sur ce plan.
On a supprimé des quartiers de la police de proximité. Oui. Et là, quand il se passe quelque chose, on fait venir qui dans les quartiers? Le RAID. Des gens, carrément, des spécialistes de l'antiterrorisme qui ont des réflexes du coup comportementaux qui n'ont strictement rien à voir avec ce que doivent être des forces simplement de maintien de l'ordre. On a vu des miliciens, c'est-à-dire qu'on a vu des gens de l'extrême droite prêter main forte à des forces de police, les BAC dont on peut vraiment
brigade anti-criminalité.
Oui.
C'est pas leur boulot.
C'est pas leur métier. Donc on a affaire à des tas de bavures qui pourraient être évitées, bien évidemment, avec des gens dont c'est la spécialité, bien formés. Et c'est le gros problème, c'est la formation de ces gens-là.
Et là, c'est pareil, il y a des pays modèles aussi en matière de maintien de l'ordre. Il y a des pays qui réussissent beaucoup mieux que la France, en tout cas.
Ça n'est facile pour personne, mais ce n'est pas difficile de faire mieux que nous.
C'est ça.
Sinon, sur le fond du dossier aussi, c'est un pays que je connais bien, le Marais Poitevin et les Deux-Sèvres.
Qui est en France.
Oui, mais je dis un pays au sens agricole.
C'est juste un documentaire sur les méga-bassines, c'est ça?
Oui. Voilà. Et c'est vrai qu'on participe à son massacre, quoi, en faisant ces bassines gigantesques, on pompe dans les nappes phréatiques. Bref, on défigure le paysage.
Et puis c'est pas efficace aussi en
termes de conservation de l'eau. Je ne parle pas seulement au niveau esthétique.
Et donc il y a un collectif, une association, je ne sais pas, Bassine Non Merci, qui sera présent.
Oui, Bassine Non Merci 29.
Parce qu'il y en a un, mais je ne savais pas. J'ignorais.
Eh bien oui.
Eh bien d'accord. Qui seront là.
Ils seront là parce que cela n'aura échappé à personne. Il paraît-il, il y a un réchauffement climatique, donc la gestion de l'eau va nécessiter de faire ça extrêmement intelligemment. Et le but, ça va être de faire en sorte que l'eau ne ruisselle pas et ne s'évapore pas.
C'est ça. Vous réécouterez l'émission qu'on a faite la semaine dernière sur l'hydrologie régénérative pour en savoir plus. Voilà. Mais bon, c'est vrai que ça demande du travail, hein, beaucoup plus que les bassines.
Voilà, une bassine.
C'est facile, alors, la bassine, en
alors,
fait.
Alors, la bassine, c'est facile, hein, tout le monde a compris. On récupère, on pompe même dans les nappes phréatiques.
On pompe dans les nappes phréatiques.
Ce qui fait que va-t-il se produire, c'est que l'eau va s'évaporer. Il va y avoir des micro-organismes qui ne vont même pas rendre cette eau propre à la consommation du bétail, par exemple. C'est-à-dire qu'on va avoir des micro qui n'aurait pas eu dans les eaux d'infiltration qui sont, comme l'on sait, filtrées, propres à être consommées. Et a fortiori, ça n'est que pour satisfaire en gros 6% des personnes concernées par l'agriculture. Ce qui fait que, qu'est-ce que vous faites des 94 autres pourcents? Il sera question de Sainte-Soline, où on a vu un déferlement des forces de l'ordre. Je peux peut-être développer
on peut pas là, malheureusement. Non. Ça s'appelle De l'eau jaillit le feu. Il faudra venir le dimanche 18 février.
Le rôle d'observateur de la LBH.
Alors, il ne reste que 6 minutes. Donc, je vous salue, salope. Alors là, le titre pourrait croire qu'on parle encore d'avortement, mais pas du tout. Enfin, on parle quand même de féminisme, enfin de défense des femmes, hein, c'est ça.
Il s'agit de parler d'harcèlement.
De harcèlement.
partout, au travail, mais aussi sur les réseaux, le déferlement de haine sur les réseaux sociaux.
De harcèlement numérique, plutôt. Hein.
Il y a, c'est quatre femmes qui vont témoigner de ce qu'elles ont vécu. Et donc, pour cela, nous accueillons une jeune association presqu'ilienne qui s'appelle Veille en Presqu'île.
Qu'on a reçue aussi, et voilà. Donc vous pourrez aussi réécouter l'émission.
Et donc, qui se fait un plaisir déjà de se présenter au cours de ce festival, et puis qui parlera de son travail, justement, en tant que professionnelle de la santé, pour être montrée à l'écoute des problématiques sexistes, etc.
Et de violences intrafamiliales, d'ailleurs, plus généralement.
Et de violences intrafamiliales.
La colère dans le vent, un autre documentaire.
Alors, il nous semblait qu'avec une relance à tout va, à tout craint, des projets du nucléaire, de l'énergie nucléaire, et toute l'incertitude que cela suppose en termes de protection des populations, au sens large du terme, nous avons choisi ce documentaire qui prend racine à Arlit, au nord du Niger, où Areva en fait, exploite l'uranium depuis 1976. Donc pour à cette occasion, nous avons invité l'association Henri Pézerin, des Irradiés de l'île Longue, qui eux ont vécu ni plus ni moins ce que vivent actuellement les habitants d'Arlit, c'est-à-dire le mépris total de l'État. Et le déni de sa responsabilité quant à son rôle de protéger la santé des individus quand ils sont en danger, mis directement en contact de substances radioactives.
C'est les irradiés de l'île Longue.
Les irradiés de l'île Longue, on attend une réponse, mais ce sont des gens âgés. Et c'est toute une organisation, on espère en avoir au moins un qui voudra bien venir témoigner. Et nous avons aussi activé notre réseau Sortir du Nucléaire qui probablement nous enverra quelqu'un pour parler de cette problématique et ce sera suivi d'un pot de clôture.
Voilà, ce sera la clôture du festival.
Sur ce sujet, moi je me souviens avoir reçu un soudeur en matière nucléaire mais il était embauché par des sociétés d'intérim qui étaient elles-mêmes cliente d'autres sociétés,
des
sociétés écrans. Donc, il n'avait jamais. Et quand je l'ai vu, il n'était pas très loin de mourir, je pense. Il avait un cancer. Mais avec un cynisme qui est inimaginable, où l'individu est lui-même presque complice de son. Parce qu'on lui dit allez, au lieu de faire 3 minutes, tu vas en faire 3 et demi ou 4.
Ah oui.
Et puis les tests de contrôle sont plus ou moins trafiqués, mais il est d'accord parce que le moment il se rend pas compte, puis on le paye très cher.
C'est ça. On tire sur la corde. Puis on en paye les conséquences, mais années après. Quoi.
Il n'a plus personne, toutes les sociétés pour lesquelles il a travaillé, elles sont parties dans la nature, elles n'existent plus, etc.
Donc il ne peut pas demander, en fait.
Rien demander à personne.
Réparation.
Terrible.
Alors il nous reste juste même pas 3 minutes pour 4 films du Festival Jeunesse. Alors il y a beaucoup d'inscrits au Festival Jeunesse ?
Oui, nous avons donc 12 établissements scolaires sur les 18 qu'en compte le territoire.
Ah bah bien.
C'est-à-dire c'est 2/3, pile poil.
Super.
qui ont répondu présent cette année. Donc nous avons 643 élèves qui seront accompagnés par 70 accompagnateurs qui se rendront sur les projections spécialement organisé pour les écoles. Donc, il y a 6 projections organisées autour de 4 films. Donc, pour les plus jeunes, Le secret de Perlims, c'est une fable écologique qui prend racine au Brésil.
C'est un film d'animation.
Ensuite, nous aurons, pour aller un peu plus vieux, le phénomène de harcèlement scolaire interroge et inquiète beaucoup de parents. Et donc, Un monde est un merveilleux film de Laura Vandel.
C'est une fiction.
C'est une fiction.
Un monde.
Voilà. C'est tout ce micro-organisme, cette micro-société qu'est la cour de récréation. Et c'est une petite sœur qui est témoin du harcèlement vécu par son grand frère. Marcher sur l'eau d'Aïssa Amaïga, qui est une comédienne assez connue, mais plutôt connue pour son rôle en tant que comédienne. Ça se passe au Niger. Là, on y parlera beaucoup de réchauffement climatique et de la difficulté de ces populations touchées de plein fouet par le réchauffement et l'absence d'eau qui se fait de plus en plus cruellement rare. Et enfin, Lost Country, qui sera aussi proposé. Toutes les séances scolaires sont également proposées en tout public.
Oui, c'est ça.
Les mercredis et lors de deux soirées de la semaine.
Et il y a des intervenants, mardi, là, en voilà. L'occurrence. Ouais.
Nous, entre autres, sur l'engagement, je pense que si à la Ligue des droits de l'homme, on permet pas, on n'échange pas avec le public sur ce qu'est l'engagement. il s'agira d'un jeune homme, hein, ça se passe en Serbie en 1996, qui va être tiraillé entre l'amour qu'il porte à sa mère, qui est elle-même très impliquée dans le gouvernement Milosevic. Et puis lui qui veut participer à ces manifestations étudiantes qui ont rassemblé et duré pendant plus de 3 mois et demi en Serbie. Hein, c'est un long mouvement. Et voilà, c'est l'histoire de la conscientisation, l'entrée en conscientisation politique ouais. De ce jeune homme.
D'accord. Avec aussi des conflits de loyauté, comme disait
bien sûr. Des dilemmes.
Des dilemmes.
Bien sûr. Eh bien, merci à tous les deux. Donc, le festival, c'est du 16 au 23 février. C'est soit à Camaret, soit à Crozon. Et bien sûr, on vous invite à y aller, à aller sur le site internet. On peut peut-être déjà réserver ses billets, non, non.
Il y aura des passes. Nous n'augmentons pas.
D'accord.
En fait,
bah voilà.
Le prix des céréales
augmente. N'êtes pas atteint par l'inflation.
Nous ne sommes pas atteints.
Merci beaucoup.
Et surtout, notre partenaire, les ciné des Dubos du Monde, sans lesquels ce festival n'existerait pas.
Et à qui revient le prix des places leur est intégralement reversé. D'accord. La LDH ne perçoit rien sur ce festival.
Eh bien, merci à la Ligue des droits humains.
Et merci de nous avoir accueillis.